Chapitre 27. Drôle d'impression. Rochester, New Hampshire. Mardi 20 juillet 2010. Gale Wood fit signe à ses collègues de patienter et retourna vers Samantha.
« Qu'est-ce que vous avez dit ?»
lui demanda-t-il.
« Je ne sais plus, »
répondit le fantôme. Les deux enfants s'esclaffèrent.
« Elle dit tout le temps ça, monsieur l'agent, lui en voulait pas, c'était pas contre vous. »«
Qu'est-ce qu'elle dit tout le temps ?»«
Imprimante de merde, je vais la ramener chez Duties. Mon père dit que c'est une vieille histoire, nous ça nous fait marrer. »«
Tu es le fils de Samantha ?»«
Oui, monsieur l'agent, et ça c'est mon frère. Vous êtes là à cause de mon père ?»«
Non, on voulait poser quelques questions à ta mère. Comment s'appelle ton père ?»«
Ricky. Ricky Positano. »«
Et où est-ce qu'on peut le trouver ?»
Ça, j'en sais trop rien.
Nous venions de retrouver la trace de Ricky Positano. Nous étions très curieux de l'interroger et qu'il nous raconte sa version de ce qui s'était passé à la station-service. À présent que nous connaissions son nom de famille, Gale Wood pouvait charger une équipe de le localiser. En attendant, Gale Wood, Lorraine et moi, nous nous rendîmes au quartier général de la police d'État pour faire un point de situation avec le chef Lansdane. Le chef Mitchell, qui réclamait des rapports quotidiens à Lorraine, fut invité à se joindre à notre réunion, ce qui le fit se sentir très important. Nous pûmes ainsi les informer des dernières avancées de l'enquête. 2 octobre 1998. Alaska découvre que son père lui a volé ses économies. Furieuse, elle part chez son copain Walter, chez qui elle devait de toute façon passer le week-end, et décide d'y rester quelques jours, mais probablement sans s'y établir. 8 octobre 1998. Alaska Sanders orchestre un cambriolage chez ses parents. Celui-ci tourne mal. Walter, qui l'accompagne, percute un policier qui tente de les arrêter. Alaska décide de rester quelque temps à Mount Pleasant. Elle ne veut pas vendre la montre de son père car cela risquerait de la compromettre. Elle prend alors un emploi dans une station-service. Novembre-décembre 1998, elle vit une relation ambiguë avec sa collègue de la station-service, Samantha Fraser. Alaska lui révèle être en couple avec quelqu'un d'autre que Walter. Cette personne doit venir la chercher et l'arracher enfin à Mount Pleasant. Cette personne est probablement domiciliée à Salem. Elle lui offre une paire d'escarpins en vente uniquement dans une boutique de cette ville et elle est en train de divorcer. Alaska avait une relation avec Walter et avec Samantha. Elle est visiblement bisexuelle. Qui est cette troisième personne dont elle se dit très amoureuse? Est-ce un homme ou une femme? Janvier 1999, Ricky Positano, le copain de Samantha, découvre la caméra dans le vestiaire. Il croit que Lewis Jacob filme ses employés et le fait chanter. Lewis Jacob découvre que la caméra appartient à Alaska. Février 1999, Samantha démissionne subitement de son travail à la station-service. Pourquoi? S'est-il passé quelque chose? 3 avril 1999, Alaska est assassiné. Une lettre est retrouvée dans sa poche. « Je sais ce que tu as fait. » Que lui reproche-t-on? Le cambriolage tragique chez ses parents? Sa relation avec Samantha? Les ennuis causés à Lewis Jacob?
« On n'est pas encore au bout de nos peines, » expliqua Gallowood. « Mais on commence à y voir de plus en plus clair. »
« Sacré boulot !» nous félicita Lansdane. « Et du côté d'Eric Donovan ?»
Eric Donovan avait eu une liaison avec la mère de Walter Carey et l'avait fait chanter. Ça pourrait constituer un bon motif pour que Walter l'accuse gratuitement. S'agissant de son pull, retrouvé maculé du sang de la victime, Eric a toujours soutenu l'avoir prêté à Walter, ce qui est désormais confirmé par la mère de Walter.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les preuves contre Eric Donovan sont toutes en train de tomber? Interrogea le chef Mitchell. Il reste la question de son imprimante qui a servi à fabriquer les lettres de menace, précisai-je. Lorraine ajouta,
à propos d'imprimante, Samantha Fraser a eu cette phrase énigmatique tout à l'heure. Imprimante de merde, je vais la ramener chez Duties.
Duties? Répéta le chef Mitchell. L'ancien magasin de Mount Pleasant?
À nous de le découvrir, répondit Lorraine.
Qu'est-ce que Duties? Demanda Lansdane.
Duties, expliqua Lorraine, était un magasin d'électronique à Mount Pleasant. Son propriétaire était un type assez particulier, pas méchant mais un peu escroc, qui avait fait plusieurs fois faillite. Vous voyez le genre. Duties a fermé il y a 4 ou 5 ans.
Depuis, il a ouvert une boutique de produits de seconde main à proximité de Wolfboro.
Vous pensez qu'il y a un lien avec l'imprimante d'Eric Donovan ? Demanda Lansdane.
Difficile à affirmer, dis-je, mais en tout cas, il faut creuser.
Gal Wood intervint.
Pourquoi Samantha Fraser était-elle obsédée par cette imprimante ? Elle semble répéter cette phrase comme un mantra. « Imprimante de merde, je vais la ramener chez Duties. » Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?
Est-ce qu'à l'époque, Eric aurait acheté son imprimante là-bas ? Demandai-je alors.
« On lui demandera, » répondit Lorraine. « Mais j'en suis assez certaine. Tout le monde à Mount Pleasant se fournissait chez Duties. Ses prix étaient imbattables. Mais il y avait toujours un problème avec sa marchandise. Les gens ont vite compris et ils ont arrêté d'y aller, d'où sa faillite. »
Ce jour-là, nous fîmes ce que Gal, Wood et Kaczynski n'avaient pas fait en 1999. Nous contactâmes la marque de l'imprimante que possédait Eric à l'époque, dont le siège se trouvait à Seattle. Après 2 heures en ligne, à passer de service en service, nous eûmes finalement une personne capable de nous renseigner.
Alors ce modèle a été mis sur le marché en 1997, rien de particulier à signaler, à part un lot défectueux sorti d'usine en avril 1998.
Défectueux ? Comment ça, défectueux ? Demanda Lorraine.
Oh, je vois juste que c'était un lot distribué dans le New Hampshire, à peine 200 pièces, d'après le rapport du grossiste.
Mais ne vous inquiétez pas, la quasi-intégralité nous a été retournée de toute façon.
Quel genre de défectuosité ?
L'homme dut fouiller dans son rapport pour trouver l'information.
C'était apparemment un problème avec la tête d'impression qui laissait des petites traces. C'était quasiment invisible à l'œil nu, mais on a rappelé les appareils quand même.
Lorraine, Gal, Wood et moi restâmes stupéfaits.
Comment est-ce que je n'ai pas imaginé que ça pouvait être un défaut de série ?
Se blâma Gal Wood. La maison mère à Seattle ne pouvait pas nous aider davantage. C'était le grossiste régional qui s'était occupé du retour du lot. L'agent commercial du grossiste, basé à Manchester, New Hampshire, en poste depuis plus de 15 ans, se souvenait parfaitement de Neil Rogue, le propriétaire de Duties. Au téléphone, il nous dit
« Un gars sympa, dans le fond, mais on ne fait plus de commerce avec lui.
Pourquoi ?»«
Il n'était pas réglo. À plusieurs reprises, lors de rappels de produits défectueux, il n'informait pas ses clients pour éviter la paperasse. C'est pas correct. »
Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?
L'interrogea Gal Wood.
Quand un produit est livré défectueux par l'usine, et croyez-moi ça arrive, on doit le récupérer et le remplacer. C'est non seulement une question éthique, mais surtout, imaginez que le défaut produise par exemple un court-circuit et mette le feu à votre maison. C'est le fabricant qui sera tenu pour responsable. Et là, c'est le procès avec dommages-intérêts colossaux. Donc quand il y a un souci, les fabricants s'en remettent aux grossistes, qui s'en remettent aux vendeurs de détail. Enfin, à l'époque. Aujourd'hui, avec Internet, les emails et compagnie, on peut remonter directement au client. Mais avant, c'était le vendeur qui devait retracer ses ventes.
Lorraine demanda.
Et j'imagine que Neil Rogue de Duties ne le faisait pas, c'est ça ?
Il ne le faisait jamais. Il n'en avait rien à faire. Il disait que vendu, c'est vendu, et il se gardait bien de prévenir ses clients.
Donc si je comprends bien, récapitula Gal Wood, Duties a pu vendre plusieurs imprimantes présentant un défaut similaire en 1998.
Certainement, il faut le lui demander.
C'est ce que nous fîmes. Nous retrouvâmes Neil Rogue dans sa boutique de produits de seconde main à l'entrée de Wolfboro.
Ils ont bon dos ? S'agaça ce dernier au sujet des grossistes. Ils vous envoient des courriers invraisemblables avec des procédures inimaginables. Vous devez remplacer immédiatement les appareils ou alors rembourser le client. Puis il faut remplir des formulaires, retourner les machines défectueuses à vos frais et attendre ensuite la validation des hautes autorités qui mettent des plombes pour vous rembourser. Toujours les petits qui trinquent, non mais...
Donc vous n'avez pas lancé de rappel d'imprimante auprès de vos clients ? Comprit Lorraine.
Ça c'est sûr que non. Parce que quand je reçois l'avis de rappel d'un produit, je fiche le courrier direct à la poubelle. Et si on m'en parle, je dis que j'ai pas reçu. C'est à l'expéditeur de prouver qu'on a reçu une lettre, non ?
Et pourquoi n'avez-vous pas dit, au moment de l'arrestation d'Eric, que vous lui aviez vendu une imprimante ?
Demanda Gal Wood.
Non mais quelle question, enfin ! Qu'est-ce que j'en savais, moi, qu'il y avait un lien entre une imprimante et une enquête de police ? Je vends de l'électronique, moi, je suis pas Sherlock Holmes.
À qui avez-vous vendu des imprimantes du même lot que celle d'Eric ?
Ouais, pour me rappeler des noms 11 ans après, ça va être coton. J'ai déjà de la peine à me souvenir de ce que j'ai mangé à midi.
Par exemple, Lewis Jacob ? Suggéra Lorraine.
Ah, alors ça, c'est marrant que vous parliez de lui, parce que justement, j'y songeais. S'il y a une personne dont je me souviens, c'est bien lui. Il m'a ramené son imprimante en disant qu'elle faisait n'importe quoi. Apparemment, elle imprimait plusieurs fois les mêmes pages. Je l'ai testé, j'ai rien remarqué. Mais lui, il m'a fait tout un foin. Il voulait faire marcher la garantie, mais moi, je pouvais pas puisque j'avais pas fait le rappel des produits. Ah, bref, il a tellement insisté que j'ai dû faire toute cette foutue procédure à la noix de renvoi à l'usine. Ça m'a pris un temps fou. On s'est fait la tête à partir de ce jour. Il n'est plus jamais venu dans mon magasin et je n'ai plus acheté la moindre goutte d'essence chez lui.
Ça s'est passé quand ?
Ça, j'en sais plus rien. Est-ce que c'était le modèle d'imprimante dont vous parlez ou une autre ? Mystère.
S'il y avait eu un retour à l'usine, on pouvait certainement le retracer. Effectivement, le département juridique du constructeur conservait ses dossiers de remplacement pendant 20 ans, notamment pour pouvoir prouver la rigueur de son suivi en cas de procès. Nous y passâmes la journée, mais finalement, nous obtînmes deux informations décisives. D'une part, l'imprimante que possédait Eric, dont le numéro de série figure au dossier de police, faisait partie du lot défectueux. Et d'autre part, Lewis Jacob avait bien rendu un modèle issu du même lot. Il avait effectué ce retour le 3 mars 1999. Ceci signifiait que Lewis Jacob aurait pu être l'auteur des lettres anonymes à Alaska et qu'il s'était ensuite débarrassé de son imprimante. À quoi Samantha Fraser se référait-elle avec son « imprimante de merde, je vais la ramener chez Duties » ? La journée touchait à sa fin lorsque nous informâmes le chef Lansdane de ce dernier élément.
« Donc, si je comprends bien, nous dit-il, il y avait plusieurs imprimantes qui présentaient le même défaut. »«
200 pour l'état du New Hampshire, » répondit Galwood, « dont au moins deux à Mount Pleasant, mais probablement plus. »
« Est-ce que le pompiste devient suspect ?»«
Peut-être bien. Cela signifie qu'il pourrait être l'auteur des lettres. »
Lansdane resta dubitatif un instant.
« Mais ça n'explique pas pourquoi on a retrouvé une de ces lettres de menace chez Eric. »«
Parce qu'il en aurait reçu une, lui aussi, » indiqua alors Lorraine. « Cela voudrait dire qu'Eric n'en était pas l'auteur, mais le destinataire. »
« Donc, selon ton hypothèse ?» intervins-je, Lewis Jacob aurait envoyé des lettres de menaces similaires à Eric et Alaska. Pourquoi ?
Parce qu'ils avaient quelque chose à se reprocher, spécula Galwood. Ce qui expliquerait pourquoi Eric ne nous a jamais dit la vérité sur la lettre retrouvée chez lui. Il ne voulait pas s'incriminer davantage.
Nous nous apprêtions à quitter le quartier général lorsque le groupe d'intervention intercepta Ricky Positano dans un bar de Rochester. Son audition ce soir-là allait engendrer une révélation de taille. Ricky avait moins mal tourné que Samantha. En le comparant aux photos de police prises lors des différentes arrestations qui avaient jalonné sa vie, on remarquait qu'il avait certes vieilli, que son corps s'était amolli, mais ses cheveux étaient toujours aussi noirs et surtout, il avait toute sa tête.
« Bien évidemment que j'ai toute ma tête, » plastronna-t-il. « C'est parce que vous avez parlé à Samantha que vous dites ça ?» Je l'ai dégagée quand elle a commencé à prendre du crack. Le crack, c'est le diable, ça vous siffle la cervelle.
Vous lui avez quand même fait deux enfants, fit remarquer Lorraine.
C'est pas mes mômes, protesta-t-il. À l'époque, elle couchait pour des doses. Maintenant, plus personne ne veut d'elle. Elle a mis dans le ciboulot de ces gamins que je suis leur père, vous imaginez? Je les ai pas reconnus ni rien, mais je veux bien leur payer un repas de temps en temps. J'ai mon cœur.
Ah bon? S'étonna Lorraine avec ironie. Ricky, visiblement rompu aux interrogatoires, contre-attaqua aussitôt.
« Est-ce que c'est un badge de la police de Mount Pleasant que vous avez à la ceinture ? Il me semble que vous êtes un peu loin de votre juridiction, ma petite dame. Et puis personne ne m'a allumé droit. »«
Vous n'êtes pas en état d'arrestation, Ricky, » lui rappela Galwood. « On a juste quelques questions à vous poser. »«
Je vous écoute. Moi, quand je peux rendre service, ça me fait plaisir. » »«
Pourquoi Samantha a-t-elle commencé à prendre du crack ? À cause de la mort d'Alaska Sanders ?
Non, à sa mort, heureusement, on était déjà partis en Californie. On faisait un road trip le long du Pacifique, un truc de couple. D'ailleurs, j'ai passé une nuit au trou après une bagarre avec des motards.
Je le sais, dit Galwood. J'ai vérifié. Vous étiez en cellule à Montecito la nuit du meurtre.
Bah, pour une fois, j'aurais pas fait de la tôle pour rien. Sinon, j'aurais encore été suspect.
Ricky regretta aussitôt sa phrase. Il en avait trop dit ou pas assez. « Pourquoi auriez-vous été suspecté de la mort d'Alaska » demandai-je.
« Je disais ça pour rigoler. »«
On sait que vous avez extorqué 10 000 dollars à Lewis Jacob, reprit Lorraine. Ce serait à ce propos?
Écoutez, les pièges des flics, je les connais. Vous faites semblant de savoir pour que je me mette à table. Je veux une garantie écrite. Si je vous parle, il faut l'immunité.
Il était trop tard pour solliciter le bureau du procureur et nous ne voulions pas reporter au lendemain les confidences de Ricky. De toute façon, comme il n'était accusé de rien, on pouvait lui signer tous les papiers du monde, il ne nous engageait pas. Lansdane rédigea donc en vitesse une lettre officielle qui n'avait aucune valeur juridique, mais qui eut le mérite de faire parler Ricky.
Un dimanche de la fin février, Samantha m'a appelé de la station-service. Elle était sous le choc. Elle m'a dit « Viens vite, c'est urgent, quelqu'un veut nous faire chanter ».
Dimanche 28 février 1999. Ricky avait rappliqué à la station-service. Samantha était dans tous ses états. Elle brandit une page dactylographiée sur laquelle il était inscrit « Je sais ce que tu as fait ».
Je l'ai trouvé par terre dans le bureau.
Merde ! Pesta Ricky. Qui a pu faire ça ? Le vieux Lewis Jacob ?
Je sais qu'il était absent hier.
Alors qui est-ce ?
Alaska, dit Samantha. Cette salope veut me faire chanter.
Alaska ? Et comment serait-elle au courant ? Tu lui as dit quelque chose à propos des 10 000 $ ?
Samantha ne voulut rien avouer, mais à sa tête, Ricky comprit qu'elle avait certainement vendu la mèche.
Merde, merde, Samantha ! Comment tu peux être aussi conne ? J'ai une condamnation avec sursis qui me pend au nez. Si je tombe, je vais prendre 5 ans pour cette connerie. Il faut se tirer d'ici.
J'ai pas envie de partir, gémit Samantha.
Ricky la secoua.
Alaska en a peut-être déjà parlé à quelqu'un. Si elle ne prévient pas les flics, quelqu'un d'autre le fera. Je ne vais pas te laisser seul ici. Tu vas baver et je vais me faire serrer. Ramasse tes affaires et appelle Alaska. Je vais lui expliquer ce qui se passe quand on me cherche.
Samantha se mit à pleurer.
Chiale pas et appelle-la, bordel!
Je ne veux pas que tu lui fasses de mal.
Si elle ne fait pas la conne, ça se passera bien.
En entendant la voix paniquée de Samantha, Alaska se précipita à la station-service. Mais en découvrant Ricky à l'intérieur du magasin, elle comprit que rien de bon ne se profilait. Il lui asséna d'entrer une gifle en plein visage qui l'envoya valser dans un rayonnage de barres chocolatées.
Salope, tu veux me dénoncer?
Et qu'est-ce que tu racontes?
Balbutia Alaska sous le choc en se tenant la joue. Il brandit le message.
« C'est pas toi qui as écrit cette merde ?»
Alaska devint livide.
« C'est pas ce que tu crois ? Je te le jure !»«
Je ne crois que ce que je vois. Tu voulais quoi, de l'argent ?»
Alaska en larmes tourna un visage suppliant vers son amie.
« Samantha, ce message ne t'était pas destiné, je te le jure !»
Mais celle-ci se contenta de répondre.
« J'ai laissé ma clé sur le bureau de Monsieur Jacob. Tu la lui rendras. Tu lui diras que j'ai démissionné. »
Ricky et Samantha se dirigèrent vers la porte.
« Samantha !» hurla Alaska. « Laisse-moi t'expliquer !»
Ricky pointa un doigt menaçant vers elle.
« Ferme-la ! Ne t'avise plus de nous approcher ou de nous contacter, c'est compris ?»«
Ce message ne t'était pas destiné, Samantha !» répéta Alaska désespérée. « Je l'ai imprimé hier, et l'imprimante a dû cracher la feuille 2 fois. Elle déconne, cette imprimante !»«
Ne l'écoute pas !» ordonna Ricky à Samantha. « Prends ta voiture, on se retrouve à la maison !»
Alaska leur emboîta le pas jusqu'aux pompes à essence, implorant encore son amie.
« Quand on l'éteint, elle imprime parfois un double du dernier tirage, tu le sais bien. On a même dit à Monsieur Jacob de la changer. Tu te rappelles, hein, Samantha ? Sam ! Sam, attends !»
Lorsque Samantha monta à bord de sa voiture, Alaska s'effondra à genoux sur le bitume et s'écria
« Imprimante de merde ! J'aurais dû la ramener chez Duties !»
Ce furent les derniers mots que Samantha entendit de la bouche d'Alaska. Il la poursuivrait jusqu'à la fin de sa vie. C'est ainsi que nous découvrîmes qu'Alaska n'était pas menacée, c'était elle qui proférait les menaces. L'enquête allait connaître un tournant majeur. Nous allions peu à peu recomposer le puzzle dont l'emboîtement évident nous avait échappé jusqu'alors. Gal Wood appelait ça le détonateur, une étincelle qui provoque des réactions en chaîne.